Première épître aux Thessaloniciens. Dans les différentes épîtres, Dieu a donné une riche provision de nourriture spirituelle adaptée à chaque étape de la croissance chrétienne. Les épîtres aux Thessaloniciens ont été écrites pour ceux qui sont jeunes dans la foi. Nous n'y trouvons donc pas le déploiement des conseils de Dieu ni celui du mystère de l'Église, comme dans les Éphésiens ou les Colossiens. Dans la première épître, nous avons les grands aspects pratiques du christianisme. La foi, l'amour et l'espérance, qui devraient marquer les plus jeunes comme les plus âgés. En outre, l'apôtre les console dans leurs épreuves et enlève une difficulté qui avait surgi au sujet de l'espérance chrétienne, la venue du Seigneur pour ses saints. L'apôtre insiste, au chapitre 1, sur les fruits pratiques de l'Évangile reçus dans la puissance de l'Esprit, au chapitre 2, sur les soins spéciaux de Dieu pour les agneaux de son troupeau en les conduisant à travers toutes les épreuves, au chapitre 3 sur la façon dont Dieu utilise les épreuves du chemin pour fortifier la foi, l'amour et la sainteté, au chapitre 4 sur la marche agréable à Dieu en vue de la venue du Seigneur pour ses saints, au chapitre 5 sur des exhortations relatives à une conduite en accord avec une marche à la lumière du jour du Seigneur, ainsi que sur des exhortations générales et sur des avertissements concernant les dangers qui environnent le chemin du chrétien. Chapitre 1er. Dans la parabole du semeur, en Marc 5, verset 20, le Seigneur enseigna à ses disciples que, lorsque le bon grain tombe sur une bonne terre, du fruit est alors produit. Dans ce premier chapitre, quelque chose du beau fruit de l'Évangile se manifeste dans les vies transformées des jeunes convertis. Pour comprendre l'Épître, il est nécessaire de se rappeler quel Évangile avait été prêché à ces Thessaloniciens, selon Actes 17, versets 1 à 9. Dans ce passage, nous voyons que, durant sa visite à Thessalonique, l'apôtre avait prêché à la fois à des Juifs et à des Gentils, les nations. Quatre choses avaient marqué sa prédication. Premièrement, il leur avait présenté Jésus le Sauveur, non pas simplement des doctrines, mais une personne vivante, le Sauveur. Deuxièmement, il avait soutenu que cette personne, Jésus, était morte et était ressuscitée. Troisièmement, il n'avait pas seulement prêché l'effet de la mort et de la résurrection, mais la nécessité de celle-ci. Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts. Luc 24, verset 46. Et quatrièmement, il s'était appuyé sur l'Écriture comme la seule autorité et une autorité suffisante. Suite à cette prédication, quelques-uns, des Juifs, et une grande multitude, d'entre les nations, avaient cru. En outre, ils avaient prouvé la réalité de leur foi en s'identifiant publiquement aux serviteurs du Seigneur, car nous lisons « Ils se joignirent à Paul et à Silas ». Ils ne gardèrent pas leur foi pour eux-mêmes. Ils n'essayèrent pas non plus d'échapper à l'opprobre en restant disciples en secret. Ils croyaient en Jésus et confessèrent leur foi avec hardiesse. Le résultat fut qu'ils eurent immédiatement à faire face à la persécution. Les Juifs incrédules, animés par la jalousie, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et troublèrent toute la ville. C'est la jalousie qui amena le premier meurtre, quand Caïn tua son frère. La jalousie a aussi conduit au plus grand de tous les meurtres, quand les Juifs ont crucifié leur Messie. Pilate savait qu'ils avaient livré Jésus par envie. Matthieu 27, verset 18. Si des hommes mus par la jalousie commettent un meurtre, nous ne devons pas être surpris que des Juifs respectables s'abaissent à utiliser des hommes vils pour arriver à leur fin. Nous apprenons ainsi le caractère de la semence semée, celui des fruits produits et celui de l'opposition suscitée. L'apôtre a écrit son épître pour encourager ces jeunes convertis dans la persécution, et il s'est plu à insister sur le beau fruit de l'Évangile qui avait été ainsi manifesté. Versets 1 à 4. Citation de l'Écriture. Paul et Sylvain et Timothée, à l'Assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. » Fin de citation. L'apôtre s'associe ceux qui avaient travaillé avec lui. Dans sa salutation, il considère ses croyants par rapport à Dieu le Père et à Jésus-Christ comme Seigneur, plutôt que comme membres du corps dont Christ est la tête. Au verset 2, il les encourage en leur assurant qu'il rendait sans cesse grâce à Dieu pour eux et qu'il se souvenait d'eux dans ses prières. Au verset 3, il reconnaît les fruits de l'Esprit en eux. En attirant l'attention sur ces heureuses qualités chrétiennes, l'apôtre ne les flatte pas, mais reconnaît avec bonheur en eux l'épreuve d'un véritable travail de Dieu. Il note leur œuvre, leur travail et leur patience, mais non pas comme des marques d'une vraie conversion. Les hommes du monde sont souvent réputés pour de grandes œuvres philanthropiques, pour un immense labeur et pour beaucoup de persévérance dans la réalisation de leurs œuvres. Dans le cas des Thessaloniciens, l'apôtre peut joindre à celles-ci d'autres qualités essentiellement chrétiennes, à savoir l'œuvre de foi, le travail d'amour et la patience d'espérance. Les trois grands éléments de la vie chrétienne qui amènent l'âme en relation avec les personnes divines, donnant ainsi les caractères d'une âme vraiment convertie. Comme preuve de cette réalité, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence justement à ces trois qualités. Il avait parlé solennellement de ceux qui ont apostasié après avoir fait profession de christianisme. Mais il peut dire des vrais chrétiens « Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures qui tiennent au salut, à savoir des choses qui accompagnent le salut, votre œuvre et l'amour, la pleine assurance de l'espérance et la foi de la patience. » Hébreux 6, versets 9 à 12. En outre, la réalité de leur foi, de leur amour et de leur espérance est prouvée par le fait que ces belles qualités sont celles de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, l'amour et l'espérance ont chacune besoin d'un objet. Dans le christianisme, cet objet suprême est une personne vivante, le Seigneur Jésus-Christ. Toute vraie activité dans la vie chrétienne résulte de la foi qui tire sa force, sa sagesse et la grâce nécessaire de celui qui est invisible et donc uniquement accessible à la foi. Le vrai travail chrétien est issu de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et n'est pas exécuté comme une obligation légale. La patience n'est pas une triste résignation vis-à-vis de nécessités sévères, mais elle est soutenue par l'espérance qui attend notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, la vie de foi, d'amour et d'espérance est vécue devant notre Dieu et Père. C'est une vie de sainte crainte, vécue devant Dieu, et non pas simplement devant l'homme pour obtenir une position religieuse ou devant les saints pour acquérir une réputation de dévouement. Ces jeunes croyants étaient devenus des modèles pour tous ceux qui croient. Verset 7. Et leur foi en Dieu s'était répandue. Verset 8. Mais leur témoignage devant les hommes était le résultat d'une vie vécue devant Dieu. Ils avaient la conscience de vivre et de marcher devant notre Dieu et Père. Verset 3. Nous pouvons en effet combattre avec zèle pour un nom. Mais la question devant Dieu concerne la puissance et les pleins fruits de la grâce dans la mesure de ce qui a été reçu. Et si l'âme n'en arrive pas jusque-là, c'est une chose terrible pour elle que de se reposer sur une réputation religieuse tandis que les œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Apocalypse 3, verset 2. Au verset 4, ces preuves d'une œuvre de Dieu dans leurs âmes ont donné à l'apôtre l'assurance qu'ils étaient aimés de Dieu et les objets de sa grâce souveraine. Non seulement la grâce a répondu à toutes nos responsabilités, mais par la souveraine grâce de Dieu, des croyants ont été élus avant la fondation du monde pour obtenir le salut avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, verset 10. Si nous sommes élus pour la gloire éternelle, nous sommes mis à part de ce monde par l'œuvre de l'Esprit. Aucune position de dignité et d'honneur que ce monde peut offrir n'aura d'attrait pour nous si nous réalisons cela. Versets 5 à 10. Citation de l'Écriture. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnée de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit-Saint, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais, en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Fin de citation. Ces beaux fruits avaient été produits dans leur vie par l'Évangile qui était venu à eux, non pas en parole seulement, mais aussi en puissance, par la prédication par le Saint-Esprit. Il y avait ainsi beaucoup d'assurance. Il peut, hélas, y avoir beaucoup de prédications correctes de l'Évangile, mais trop souvent en parole seulement. La puissance et l'œuvre de l'Esprit-Saint manquent. Ce qui donne de la puissance à la prédication et qui laisse le Saint-Esprit libre d'agir est une vie conséquente chez les prédicateurs. L'apôtre peut donc dire « Vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous ». Sa vie confirmait sa prédication et faisait ainsi partie du témoignage qu'il rendait de ses lèvres. Le résultat du témoignage en puissance se manifeste de deux façons. Premièrement, il a conduit ceux qui ont reçu le témoignage non seulement dans la bénédiction du salut, mais à imiter l'apôtre, et donc imiter le Seigneur. Ayant été bénis, ils sont devenus les représentants de celui par qui ils ont été sauvés. Deuxièmement, ce témoignage en puissance a suscité la haine de ceux qui le rejetaient. Cette malice s'est exprimée en persécutant les croyants. Néanmoins, ces croyants ont été soutenus dans la joie par le Saint-Esprit. Le diable peut susciter la persécution, mais la puissance de l'Esprit est plus grande que toute la puissance de l'ennemi. Étienne, rempli du Saint-Esprit, a été soutenu triomphalement au milieu de ses souffrances de martyr. Le martyr, dont les souffrances ne font que produire de la louange au Seigneur, rend un témoignage saisissant de la puissance de Dieu devant le monde. Ainsi, la joie de ces jeunes convertis persécutés était devenue un exemple aux croyants et un témoignage au monde alentour, car, en tout lieu, leur foi envers Dieu était devenue un sujet d'émerveillement. Leur témoignage avait un triple caractère. Premièrement, la parole du Seigneur avait retenti de chez eux, verset 8. Deuxièmement, leur changement de manière de vivre avait prouvé la réalité de leur conversion et était un témoignage à la vérité de leur prédication. Ils avaient en effet abandonné toutes leurs anciennes pratiques idolâtres et s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, verset 9. L'Écriture non seulement qualifie d'idoles les images réelles des païens, mais aussi tout ce qui s'interpose comme un objet entre l'âme et Dieu. Ainsi il est écrit « Petits enfants, gardez-vous des idoles » 1 Jean 5, verset 21. Combien la vie et le service du croyant sont souvent entravés par le fait qu'on permet à une certaine poursuite terrestre, en soi inoffensive peut-être, de devenir un objet entre l'âme et Dieu. Troisièmement, ils s'étaient détournés du monde et de ses illusions pour attendre du ciel le Fils de Dieu, verset 10. Toutes leurs attentes étaient en lui. Convertis, ils ne cherchaient pas vraiment à redresser le monde pour le rendre meilleur et plus brillant. Pour s'occuper du mal et apporter la bénédiction, ils attendaient tranquillement du ciel le Fils de Dieu. Ils le faisaient dans la paix et le calme, sachant que Jésus les avait délivrés de la colère par sa mort, et qu'en ressuscitant Christ d'entre les morts, Dieu avait déclaré d'une part sa satisfaction dans l'œuvre de Christ, et d'autre part la justification du croyant à l'égard des péchés et du jugement.